87,9 λόγοι για να ακούσεις ραδιόφωνο. Echo Radio 87,9. Ο δικός σου σταθμός.
Madame, Monsieur, bienvenue aux auditeurs de Suivez-Pied. Nous sommes arrivés à Héraclion, aéroport Nikos 45X International. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une agréable journée. Ladies and gentlemen, welcome to Follow the Guide listeners. We arrive at Heraklion, Nikos, Kazantzakis International Airport.
Καλημέρα. Bonjour. Καλωσορίσατε στην Κρήτη. Bienvenue en Crète.
Bienvenue à vous, première d'une nouvelle série. Suivez le guide, vous emmène en Crète. Ce sera l'occasion de vous mettre au régime. La Crète, autrefois île de Candie, nous serons donc au pays de Candie, la plus vaste des îles grecques et la cinquième de Méditerranée, 8300 km². La Crète, rattachée en 1913 à la Grèce, berceau de la civilisation minoenne, dont Knossos est l'épicentre et le site archéologique le plus important où se terminera notre série hellénique. La Crète est entourée au nord-ouest du Péloponnèse et du continent grec, au nord-est de la Turquie et au sud de la Libye et de l'Égypte à 1000 km. Le massif du mont Psiloritis, à près de 2500 mètres d'altitude, en plein centre de l'île, en est le point culminant. Un chiffre impressionnant, la Crète compte officiellement 35 millions d'oliviers. Si l'île a connu une première vague de peuplement il y a près de 130 000 ans par voie maritime, elle compte dans les années 2020 un peu plus de 620 000 habitants.
Héraclion.
Sur la côte nord, presque au centre de l'île, est la capitale crétoise depuis l'époque byzantine jusqu'en 1898 où l'Acanée toute proche, Chania, hérita du titre. Héraclion redevint capitale en 1971. Les Crétois les plus connus des Français sont Nana Mouskouri, née à l'Acanée mais peu vénérée dans son île natale, qu'elle quitta à l'âge de 3 ans, Mikis Theodorakis, le compositeur de Zorba le Grec, avec un père crétois inhumé en septembre 2021, tout près de l'Acanée, et Nikos Kazantzakis, l'auteur d'Alexis Zorba et de La Dernière Tentation, reste à ce jour l'écrivain grec le plus traduit dans le monde. Pour ce premier rendez-vous en Crète, nous débuterons notre découverte au musée archéologique d'Héraclion avec notre guide Irène Mavroudi avant de rejoindre Ayos Nikolaos à 60 km à l'est où nous retrouverons Blanche et Jean-Louis Poirier.
Ξεναγηθείτε στο Ηράκλειο. Suivez le guide à Héraclio.
Le musée archéologique d'Héraclion, visite incontournable dans la capitale crétoise. Et nous avons rendez-vous avec Irène, que je reconnais tout de suite. Kalispera, Irène.
Kalispera, Thierry.
Et on peut même se donner rendez-vous, mais sans s'être jamais rencontré et se reconnaître, parce qu'il n'y a pas un monde fou et ça semble être un musée à taille humaine.
Tout à fait.
Même si c'est sans doute le plus grand musée de Crète.
Oh, tout à fait, il y a des plus grands du monde maintenant, depuis la restauration de 2014. C'est intéressant ce que vous avez dit sur la taille humaine, parce que c'est tout à fait le reflet de la civilisation minoenne.
Ah, c'est vrai.
Très intéressant.
Dont nous allons parler.
Et de la philosophie grecque aussi, d'ailleurs.
Ah, bah, obligatoirement, de toute façon, la civilisation minoenne.
Voilà.
Il n'y a plus qu'à entrer. Bon, mais c'est pas trop fatigant, Irène, le début de la visite, on s'assoit.
On va en profiter.
Ouais. Parce que les protocoles, contexte sanitaire, compliquent un peu l'accès, l'accessibilité, ou de toute façon, il y a toujours beaucoup de monde au musée archéologique d'Héraclion.
Le musée est un musée qui est très visité, c'est vrai, mais...
C'est le Louvre d'Héraclion.
Oh, enfin,
c'est
tout
le
à fait,
Louvre
oui,
de Crète.
C'est
enfin.
Après le musée de l'Acropole. Voilà, le musée d'Athènes, c'est le musée le plus visité. C'est le premier site avec Knossos qui sont visités en Crète, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'avec les mesures d'hygiène par rapport au Covid, le souci, c'est qu'il y a un nombre limité de personnes par salle. Résultat, ça provoque une attente parfois interminable et des queues, des files qui se forment. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est de voir la patience des visiteurs qui peuvent attendre jusqu'à 1h30 ou 2h dans le soleil en plus pour faire la visite.
Donc il se mérite, voilà,
voilà, visiblement, oui.
C'est peut-être l'occasion, puisqu'on est assis et on entend les cigales et tout, c'est agréable. Peut-être, si vous le voulez bien, Irène, de nous donner quelques généralités sur ce musée. Bon, qu'il faut, si on vient en Crète, il faut absolument le visiter.
C'est incontournable. C'est incontournable. C'est une visite. Alors évidemment, comme dans tous les grands musées du monde, une visite ne suffit pas pour découvrir le musée dans sa totalité. L'essentiel, c'est de repartir avec une idée et surtout un ressenti, parce que moi, par le métier, c'est vrai que je donne beaucoup d'importance au ressenti et au vécu. Et c'est vrai qu'à travers les objets qu'on peut découvrir par rapport à cette grande civilisation minoenne, puisque la spécialité de ce musée, c'est ce qu'on appelle la civilisation minoenne.
C'est peut-être l'occasion de donner quelques mots d'explication sur cette civilisation qu'on ne connaît pas forcément depuis la France. Hein.
Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. En tant qu'Européens, qu'Européens unis depuis un certain temps d'ailleurs, on connaît si peu nos racines. C'est vrai que quand on parle de civilisation ancienne, tout le monde va penser à l'Égypte, va penser à l'Inde, la Chine, qui sont effectivement des civilisations qui ont été déterminantes pour l'humanité. Mais c'est vrai qu'en tant qu'Européens, il serait bon de connaître un peu nos sources et nos racines. Et c'est vrai qu'un jour, tout a commencé ici, en Crète. Et là, c'est une surprise et une grande joie, justement, du moins pour mes visiteurs, qui repartent et qui me disent ben merci parce qu'on ne connaissait pas.
Ça veut dire que notre histoire à toutes et à tous européens a débuté en Crète ?
Un jour, oui.
Nous sommes tous crétois.
Je crois que quand on repart, on se sent tous un peu crétois, et les Français particulièrement, justement.
Alors, un peu plus crétois et un peu moins crétins.
C'est ce que disent beaucoup, d'ailleurs. Je ne sais pas, mais comme je vous ai dit, je donne beaucoup d'importance au vécu et au ressenti. C'est pour ça que je dis toujours aux visiteurs que j'accompagne, j'espère que vous partez avec plein de choses dans la tête, mais surtout avec plein de choses dans le cœur, parce que finalement, c'est ce qui va rester. Et finalement, c'est ce qu'on recherche quand on fait un voyage, du moins pour moi personnellement. Vous dites si bien, vous les Français, que les voyages, c'est la grande école. Oui, c'est la grande école, mais c'est la grande école aussi pour se connaître soi-même. Pas seulement des connaissances encyclopédiques, mais pour se connaître soi-même. C'est vrai qu'on se découvre. On ne rentre jamais d'un voyage le même. Jamais.
Plutôt que de s'arrêter devant énormément de pièces, si on voulait s'arrêter devant chacune, il y a combien de pièces exposées ici ?
Écoutez, là, on a plus de 11 000 pièces exposées.
11 000 pièces.
Voilà, qui recouvrent une période dans le temps de la dite période néolithique, ça veut dire 7 000 avant Jésus-Christ, et ça se termine avec la fin de l'occupation romaine, autrement dit la fin du 4e siècle après Jésus-Christ. À vrai dire, quand on fait la visite du musée, qui est en général en rapport avec les sites que nous allons découvrir dans les programmes, qui sont des sites minoens principalement, mais pas seulement, là, on va se concentrer beaucoup sur ce qu'on appelle l'âge du bronze. Ça veut dire une période qui commence vers les 3200 pour se terminer vers les 1000 avant Jésus-Christ.
Plutôt que d'avoir une idée très floue, non pas des 11 000 pièces, mais d'un nombre conséquent, c'est peut-être mieux d'avoir une idée plus précise de quelques-unes.
Et puis c'est vrai qu'il y en a qui marquent, même pour quelqu'un qui est complètement amateur, en passant devant certaines pièces, on ne peut pas ne pas s'arrêter. Je pense que c'est ça, il ne faut pas se perdre dans des généralités, il ne faut pas se perdre dans trop de détails non plus, il ne faut pas se perdre dans trop de dates, ça ne sert à rien. En regardant un objet, c'est de trouver aussi ce qui se cache derrière cet objet, et principalement la vie quotidienne de ces fameux Minoens.
Alors, les Minoens.
Les Minoens, qui sont les Minoens ? Le roi Minos, oui. Ça par contre, vous le connaissez tous.
Le nom est connu.
Voilà, le labyrinthe, le Minotaure, tout ça c'est connu. Alors d'après le mythe, parce que nous n'avons pas de source historique pour cette période-là, le mythe nous dit que le roi qui aurait vécu et régné dans le palais de Knossos s'appelait Minos. Mmh. Donc c'est ça l'origine qui a donné le terme de Minoens, Minoennes. À vrai dire, la Crète est habitée longtemps avant l'âge du bronze et longtemps avant les 10 Minoens, puisque déjà depuis 7000 avant Jésus-Christ, l'homme du néolithique, comme on l'appelle, vit sur l'île. Donc visiblement, c'est une souche humaine qui vivait déjà sur l'île. Et puis au cours des siècles, parce que ce n'est pas des choses qui se passent du jour au lendemain, au cours des siècles, des arrivées.
D'accord. Ah, on se lève. On se lève pour Minos.
Voilà, donc des arrivées. Alors d'après les caractéristiques anthropologiques, visiblement des peuples qui viennent du sud et de l'est. De l'est, fatalement, puisque comme ce sont des périodes dans le temps très très éloignées, par exemple ce qu'on appelle l'Europe occidentale aujourd'hui, n'est pas développée dans le sens où il n'y a pas de grands sites. Bon, il y a peut-être des personnes, j'entends des gens qui vivent dans des grottes, etc. Mais comme je dis toujours, le soleil se lève à l'est, et c'est vrai que pour l'humanité, tout est venu de l'est. Donc forcément, nous sommes sur le passage, et pour l'Europe d'aujourd'hui, ben, on est aux portes. Qui a beaucoup joué, bien sûr, aussi, parce que beaucoup me disent « Oh, mais vous vous rendez compte, à l'époque où vous avez une civilisation, nous, on était dans les grottes. » Oui, peut-être, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, si l'homme s'est installé, par exemple, sur l'île de Crète ou sur les îles des Cyclades, par exemple, ce qui a été déterminant pour leur choix, c'était le climat. L'homme va s'installer là où il peut survivre. Alors, survivre, ce qui est fondamental, c'est le climat. Et il ne faut pas oublier que de l'autre côté de l'Europe, à cette époque-là, il y avait des conditions climatiques très, très rudes et des petites glaciations, etc. Donc l'homme n'allait certainement pas s'installer de ce côté-là.
Ah oui, c'est pourquoi des Français aujourd'hui viennent s'installer en Crète. Bah, c'est pour le climat
aussi. Aussi, voilà. Ah, mais vous savez, hein, les plus grands émigrés, les plus grosses immigrations qui sont devant nous, ce sera les immigrations écologiques, hein, oui. Les climatiques, ça se dit. Hein, ça se oui. dit.
Et là, ce sera peut-être pour fuir le trop chaud, plutôt.
Oui, oui. On subit pour le moment, hein, on subit.
Suivez le guide est à Héraklion, le nom de la capitale crétoise. 150 000 habitants, un quart de la population de l'île, sans compter les touristes, vient du héros grec Héraclès, fils de Zeus, célèbre pour ses 12 travaux, car Héraclès correspond à Hercule dans la mythologie romaine. Nous sommes au musée archéologique avec notre guide Irène Mavroudi.
Ξεναγηθείτε στο Ηράκλειο. Suivez le guide à Héraklion.
Αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη. Ας είναι αλήθεια αυτό που ζω.
Oui, on a pris les billets, prendre les billets, ça va. Premier contrôle.
Le scanner, on scanne les tickets.
Pour entrer déjà, alors oui. Première attente, ensuite le scanner pour entrer, donc deuxième attente, et encore un peu d'attente maintenant avant d'entrer dans la. Première salle.
Alors, petite anecdote par rapport justement au scanner de sécurité où on passe les sacs, on passe les portables, etc. etc. Il est strictement interdit de rentrer dans le musée avec des petites bouteilles de crème solaire. Vous allez me dire bah, pourquoi est-ce que, oui. que c'est dangereux bah, parce que figurez-vous, il y a 3-4 ans, il y a deux dames qui s'amusaient à visiter des musées d'Athènes, notamment le musée byzantin, le musée Benaki, et qui avaient des petites bouteilles avec de l'huile et qui ont en fait... badigeonner les tableaux qui, comment dire, violaient leur et blasphémaient par rapport à leur foi chrétienne. Mais c'était quand même des tableaux de grands maîtres, etc. Donc depuis, ben, forcément, dans tous les musées de Grèce, on
ah oui, c'était pas. Des chrétiennes.
Voilà, c'était des chrétiennes.
Crétoises
non, non, c'était à Athènes. Je ne connais pas en fait l'identité de ces femmes, mais ça peut paraître curieux qu'on arrête des produits de crème solaire ou d'autres. Mais c'est, la raison, c'est d'accord. ça. Parce que comme vous le verrez dans le musée, il y a beaucoup d'objets qui sont sous vitrine, mais pas tout. Il y a des objets qui peuvent être directement en contact avec le visiteur.
Ouais, donc là, c'était vraiment crétin.
C'était, voilà, c'était, on peut dire, pas très intelligent. Le tout, c'est de rentrer dans la première salle, après le monde se disperse.
Après, le monde est à nous.
Le musée
le monde minoen, le monde antique est à nous. Et nous allons suivre les choix d'Irène.
Oui, je vais vous montrer mes coups de cœur, qui sont à la fois souvent les personnes les plus représentatives et les plus intéressantes de l'art minoen. Mais parfois, on a des coups de cœur pour des choses qui peuvent paraître assez banal, mais qui, pour une raison ou pour une autre, nous touche.
C'est ça, mais pour ça, il faut être avec vous, parce que sinon, on risque de passer devant et de ne pas les remarquer.
C'est l'avantage, voilà, c'est l'avantage.
Donc, vous y venez tous les jours?
Non, en fait, ces dernières années, mon emploi du temps, enfin, en tant que guide, parce que je suis guide professionnel issu de l'école de guide de Grèce, ce sont des circuits. Donc, ça veut dire que je passe une semaine, deux semaines avec des personnes qui voyagent, donc le même groupe.
Donc, en Crète ou partout en Grèce?
Alors, c'est principalement en Crète. D'accord. Parfois, on a des programmes qui combinent la Crète et Santorin, puisque Santorin, c'est pas loin et c'est très demandé aussi. Et puis, ces dernières années, comme ça fait un long moment que je fais ce métier, j'ai envie d'ouvrir mes ailes un peu comme Icare, hein, peut-être encore plus, peut-être. Et donc, ben voilà, je suis allée sur la Grèce continentale, j'ai fait un circuit classique, et ça m'a beaucoup plu. Bon, évidemment, c'est une autre grande page de l'histoire, c'est un défi pour moi.
Oui, que vous devez absorber aussi, l'autre grande page de l'histoire.
Bien sûr, bien
même
sûr.
Si vous l'avez, même si vous l'avez étudié, c'est certain.
Oui, mais c'est une chose d'avoir des connaissances tout à fait générales et théoriques, et c'est une autre de se promener sur un site avec un groupe de personnes derrière soi.
Et en gros, en ayant réponse à tout.
Et voilà, et puis de découvrir un musée, parce que dans un musée, il faut connaître... Déjà la configuration du musée, il faut savoir où telle ou telle pièce se trouve. C'est pas si facile
non,
que
non.
ça.
Et vous guidez, par exemple, vous avez guidé dans ce très beau musée d'Athènes
Dans le musée national et le musée de l'Acropole, oui. Musée de l'Acropole. Je suis allée également à Corinthe, sur l'antique Corinthe, bon, bien sûr, Delphes, Mycène, Épidaure. Le musée de Thèbes, qui est fabuleux, le musée de Thèbes. C'est pas très connu, Thèbes, c'est une petite ville du côté de la Grèce continentale, mais qui fut une des grandes... Un des grands centres mycéniens d'ailleurs, avec un superbe musée, un petit mais magnifique et très très pédagogique.
Ο χρόνος πήρε τις ομορφιές, ο χρόνος πήρε τις ομορφιές, τη νιώτη ξεθυμένη. Έδεσαντες, τη νιώτη ξεθυμένη και μόνο η λύτη του σεβδά και του γλεδιού πομένη.
On est presque entré.
Voilà,
presque,
on est devant la première salle. Et il y a des choses qu'il faut dire parce qu'a priori, on ne les remarquerait pas. Ce sont les couleurs qui ont été utilisées. Dans les premières salles, la couleur qui domine, c'est un brun rouge presque. C'est la couleur de la terre. Et plus tard, c'est un bleu vert, c'est la couleur de la mer. Tout ça, ça signifie que dans un premier temps, les habitants de la Crète, c'est-à-dire jusqu'en 1700 avant Jésus-Christ, donc de 7000 jusqu'en 1700 avant Jésus-Christ, ont des contacts avec le monde extérieur, mais ce n'est pas encore la fameuse thalassocratie minoenne, donc la flotte commerciale qui va dominer dans toute la Méditerranée. Donc là, c'est pour ça que cette couleur de terre apparaît. Et plus tard, donc après les 1700 avant Jésus-Christ, là, on parle de la fameuse thalassocratie minoenne, où effectivement les bateaux marchands, parce que c'était des bateaux marchands, vont se promener dans toute la Méditerranée à échanger leurs produits locaux, donc à exporter leurs produits locaux et à importer toutes les matières premières qu'on peut voir et les matériaux qu'on peut voir dans le musée, mais qui n'existaient pas sur l'île. Parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'homme voyage déjà à cette époque-là. Au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il est tout à fait capable de tracer des routes maritimes, des comptoirs commerciaux sont établis et il y a déjà donc une très très grande communication dans toute la Méditerranée orientale et pas seulement visiblement.
Et voyager sur des eaux non polluées.
Voilà.
Vous avez de la chance.
Des eaux vineuses, comme disait Homère, des eaux vineuses. L'intérêt aussi, parce que ça c'est le côté pédagogique du musée, c'est que c'est une exposition, bon chronologique ça paraît logique, ça veut dire que plus on avance dans les salles, plus on avance dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une exposition qui est thématique, ça veut dire qu'on a regroupé les objets, en général, en fonction du domaine auquel ils appartiennent. Donc c'est des thèmes comme par exemple l'architecture, la religion, l'alimentation, les voyages, etc., etc. Ça c'est très pédagogique parce que ça prépare très très bien aux visites sur les sites.
Première salle déjà, alors ce sont des petites pièces, mais il y en a plein.
Oui, alors dans la première salle, si on devait choisir quelque chose, bien sûr il y a l'orfèvrerie minoenne. Beaucoup de personnes sont étonnées de voir autant de bijouterie dans les grandes villes de Grèce encore, mais c'est vrai qu'il y a une très très grande tradition qui se cache derrière ça, avec des maisons d'orfèvrerie qui sont encore très valables aujourd'hui. C'est vrai que cette tradition nous vient de très très loin, avec des bijoux qui sont utilisés notamment pour les rites funéraires, comme c'est le cas ici, parce que tous les objets personnels sont mis avec les morts dans leur tombe. Alors, on voit des objets qui sont couleur or, parce qu'ils sont en or, effectivement, même si l'or n'existe pas en Crète. L'or est déjà importé probablement du sud ou de l'est, même si on n'est pas aux grands échanges commerciaux. Vous avez différentes techniques qui sont déjà utilisées, comme la technique du martelage, la technique du coulage, parce que quand on parle de l'âge du bronze, ça veut dire qu'on a des fours à métaux, puisque le bronze est un alliage. On fait couler l'or fondu. Le filigrane, on travaille l'or en fil très très fin. Et ce qu'on appelle la granulation, qui sont des toutes petites boules, des granules d'or utilisées pour décorer par exemple le dos de la petite grenouille qui est là. Mmh. Alors des bijoux qui datent de 2600, 2000 avant Jésus-Christ, retrouvés à l'intérieur.
Donc 4000 ans, plus de 4000 ans. Et on note une grande finesse.
Déjà, même si les moyens techniques et technologiques ne sont pas très très élaborés, ça n'empêche qu'on travaille des choses très très fines. Tous les bijoux que nous connaissons existent déjà. Vous avez des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, des diadèmes, des fibules ou des broches. Tout ça, on n'a rien à leur apprendre. Tout ça, sont retrouvés. Alors pourquoi à l'intérieur de tombes ? Parce que les objets personnels suivent les défunts dans leur
Dans l'au-delà.
Voilà, parce que visiblement, c'est une autre vie.
au cours de laquelle on portera des bijoux.
Certainement, oui. Il faut souligner aussi que dans toute la Méditerranée, encore aujourd'hui, et en Grèce tout à fait, c'est que l'or est encore un matériau très symbolique. Tous les grands événements de la vie sont marqués par des objets en or, aussi bien les naissances, les baptêmes, les fiançailles, les mariages, tout ça, ce sont des événements qui sont accompagnés de ces bijoux en or.
Ο κύρις σου με ξόρισε εις την ξενιδιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δω και να ανημένω κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα κάμω δίχως σου στο χωρισμό εκείνο.
Et les dieux des Minoens sont...
On ne va pas parler de religion, de croyances, etc. Mais visiblement, les Minoens avaient concentré toute leur croyance sur un culte de la déesse mère Terre. Et quand je dis mère, j'entends maman. Parce que comme je dis toujours, c'est le grand texte que nous a laissé la mythologie. Qu'est-ce que c'est finalement ? Eh bien, ce sont tous ces phénomènes naturels que l'homme ne pouvait pas s'expliquer. Des phénomènes comme le soleil, la lune, les séismes, les pluies, etc. L'homme n'a pas l'explication scientifique. Donc tout ça, il essaye de s'expliquer par différentes histoires. Alors un phénomène naturel très très impressionnant et qui impressionne encore, bien sûr, c'est le miracle de la vie. Le miracle de la vie, vous imaginez à cette période-là, un ventre qui gonfle et 9 mois plus tard, la vie qui naît, ben forcément, il y avait de quoi déifier ce genre de phénomène. Donc le culte de la déesse Terre, mère, la maman, par exemple, là on voit un petit récipient en terre cuite avec ces deux choses qui ressemblent à des seins, parce que ce sont des seins féminins gonflés de lait, parce qu'ils symbolisent justement la fécondité, la fertilité de la femme, la maternité, tout ça. Alors justement, le culte de la déesse Terre-Mère, c'est un point de départ pour la civilisation minoenne et grecque plus tard. Mais quand on remonte les origines d'autres civilisations, c'est la même chose.
Toutes ces pièces sont comme neuves, on pourrait dire. Elles étaient sans doute en morceaux, mais sinon, elles sont entières.
Parfois, elles sont intactes. Alors, bien sûr, les pièces qui sont exposées dans le musée, ce sont les plus belles, forcément. Ceci dit, c'est vrai que quand on remonte à l'âge de ces objets d'une part, mais aussi aux mésaventures que ces sites ont pu connaître, parce que c'est des sites qui ont connu des séismes, des incendies, donc forcément, et puis tant de guerres, de conflits, donc forcément, c'est des choses qui ont survécu. Alors, l'intérêt, c'est que quand un site est enseveli, ou par exemple dans les tombes, on a souvent retrouvé les choses. Pourquoi ? Parce que justement, c'était protégé. Un bijou, vous allez me dire, on revient au bijou, mais c'est vrai qu'il est incontournable, lui. C'est le bijou symbolique de l'orfèvrerie minoenne qui nous vient du troisième grand palais minoen, comme on l'appelle, le site de Malia. Et là, c'est un pendentif qui représente deux abeilles, parce qu'a priori, on pense qu'il y en a une, mais non, il y en a deux, avec les deux petites têtes et les deux petits abdomens qui se rejoignent, les petites ailes sur le côté. Et entre leurs abdomens, dans leurs pattes, elles tiennent un gâteau de pollen. Et à nouveau, la poudre de pollen, c'est le travail de granulation. À l'œil nu, c'est très difficile à voir.
Petite pièce, quelques centimètres.
On se pose beaucoup de questions encore, le comment ils ont pu travailler ces minuscules boules d'or.
Grande finesse, vraiment.
Oui, c'est impressionnant.
Et puis d'orfèvre.
La superbe fibule en forme de lys.
Ach, ta tragoudia, stous tathmous, ta pernoun chili, xena, ma si de xeris, pou ta
Nous n'en sommes qu'au début de la visite du musée d'Héraclion et retrouverons Irène dans la prochaine émission. Nous serons dans un instant à 60 km vers l'est, une heure de voiture au nord-est de l'île, à Agios Nikolaos, où nous attendent un peintre français installé en Crète et son épouse.
Ξεναγηθείτε στην Κρήτη. Suivez le guide en Crète.
MZR, My Greek Radio.
Sur les bords de la Méditerranée, l'eau est claire ici. Dans le nord de la Crète, le golfe de Mirabello, c'est facile à retenir pour les Lorrains, il suffit de penser aux fruits Mirabelle. Première rencontre je vais retrouver Jean-Loup Poirier, qui est peintre et qui va nous raconter sa vie crétoise. Comment est-il arrivé ici? J'avais contacté l'office de tourisme à Gios Nikolaos. Donc, il n'y avait pas d'idée de Français ou de personnes francophones, en tout cas, à rencontrer. Et puis, totalement par hasard, en longeant le bord du golfe de Mirabello, eh bien, une maison avec des toiles qui sont exposées juste devant. Enfin, tout le monde peut regarder. Ah, la porte est ouverte. Et on peut lire « Je traverse » et on peut lire devant l'entrée « Artiste peintre ». Jean-Loup Poirier, c'est le nom d'artiste. Et sinon, c'est Jean-Louis.
Vous êtes venu par hasard hier?
Ah ben, en longeant, oui, ouais. Totalement. Votre terrasse, c'est presque une galerie d'exposition.
C'est fait pour, parce que de toute manière, là, avec le Covid, on n'a pas pu exposer l'année dernière. Et cette année, j'expose.
Et l'année dernière, vous n'avez pas explosé non plus, alors?
Non, non plus, mais ça s'est accumulé.
Bon, il y a deux personnes en vous, si j'ai bien compris. Il y a Jean-Louis Poirier, l'état civil, et Jean-Loup, qui est l'artiste.
Voilà, c'est un petit peu un clin d'œil à mes parents, parce que... Quand on m'engueulait, on m'appelait Jean-Louis. Et puis quand c'était bien, c'était Jean-Loup. Voilà.
Et donc vous, Blanche, vous l'appelez parfois Jean-Louis ou toujours Jean-Loup?
Loulou.
Loulou.
Parfois, il a droit à Loulou.
Donc Loulou, quand tout va bien et quand ça va pas bien?
Jean-Loup.
Ah, bon, mais vous n'allez pas quand même jusqu'à Jean-Louis. Ça serait très, très grave dans ces cas-là. Je me demandais, avant de venir vous rencontrer, si c'était une résidence où vous passiez une partie de l'année ou si c'était un temps complet. Et quand on entre, je me dis plutôt que c'est pleinement et totalement.
C'est fini, la France, bon, les vacances, là-bas, voir les enfants, c'est tout. Sans ça, c'est 9-10 mois ici.
Et ici, à Gios Nikolaos, vous êtes vraiment à combien de mètres de la plage?
À 2 minutes, à pied, sans se presser, et à 5 minutes du centre-ville. Pas besoin de prendre la voiture.
C'est agréable.
Ah, c'est un village, hein. C'est même pas une ville, c'est un village.
20 000 habitants quand même.
Oui, mais qui s'est développé, mais le petit Saint-Tropez est devenu le grand Saint-Tropez, mais Saint-Tropez c'est pareil, hein. C'est plus Saint-Tropez d'antan.
Bon, et ce qui frappe, Jean-Loup, quand on entre chez vous, sont les toiles au mur.
On en a un peu beaucoup dans la maison, parce que notre métier d'avant c'était antiquaire. Donc on a ramené quelques bricoles dans les voitures. On n'a pas fait de container, mais on aurait dû.
Première pièce dans laquelle je vous retrouve, on est dans une ambiance un peu africaine. Hein.
Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai vécu en Afrique du Nord. Blanche, elle, c'est une ch'ti.
Donc, elle, c'est pas Afrique du Nord, mais c'est du Nord.
Du Nord, tout court.
Vous êtes une biloute, alors?
Oui, une vraie biloute. Et j'en suis fière.
Si on regarde, Jean-Loup, ce que vous peignez, je vois de la faune, des marines.
C'est-à-dire qu'en vérité, je fais ce qui me plaît. J'avais fait les premières années, en 2016, beaucoup de choses qui correspondaient au tourisme avec la mer bleue, le ciel bleu, ce que les touristes veulent acheter en règle générale. Mais ils ont un budget, et le budget préfère le passer au restaurant que acheter une toile.
Bon, et puis repartir en avion avec la toile, c'est pas toujours pratique.
On livre.
Ah, vous envoyez?
Bah voilà, dans un tube.
Vous entubez vos toiles?
Oui, je les défais.
Mais pas vos clients?
Non. Non, non, non. Non, par exemple, là, ici, c'est les chèvres locales. Quand je vois une photo ou un truc qui me plaît, je le fais.
Vous ne peignez pas sur site?
Non. Il fait trop chaud ici. C'est impossible, je serais mort. Manu le faisait, mais moi, je peux pas. Il avait plutôt la pluie, lui, et le mauvais temps, mais ici, non.
Et vous peignez le jour, vous peignez la nuit?
Non, la journée.
Tous les jours?
Tous les jours.
Quitte votre domicile qui est vraiment de plein pied. Hein. Et face à vous.
Là, c'est franchement.
La Grande Bleue.
La Grande Bleue, il y a des décrochements, c'est pas linéaire. Quoi. Voilà, on a une île en face, on a beaucoup de bateaux qui viennent se mettre là au repos parce que c'est abrité.
J'en déduis en fonction de ce que vous m'avez dit, Blanche et Jean-Louis, enfin Jean-Loup, vous avez passé tout le confinement ici?
Ah oui. Oui, oui, nous ça fait 2 ans pratiquement qu'on n'est pas allé en France.
Parce que là, on enregistre pendant ce mois d'août 2021. Ouais. Donc depuis
l'année dernière, nous
le début, l'arrivée de la Covid, vous étiez ici.
Voilà, tout à fait. On est bloqué depuis. Bon, on aurait pu y aller, bien sûr, comme beaucoup de Français qui ont bougé, mais on n'y tenait pas.
Mais enfin, en même temps, on se dit que c'est pas ici la zone la plus à risque. Hein.
Non, on n'avait rien. Et puis en plus, les gens étaient vraiment... ils étaient très méticuleux de ce côté-là, le port du masque, tout. Même à la limite, quand ils voyaient des étrangers comme nous, Ils changent de trottoir parce qu'ils ont dit ceux-là, ils arrivent de...
Ils vont nous contaminer.
Ah, tout à fait.
Ils ont très très bien respecté le confinement et on en a eu les bénéfices, bien sûr. Il y a quelques jours, nous avions 425 cas à Ayios, avec tous les touristes qui sont arrivés, c'est-à-dire c'était vraiment très peu.
Ayios, alors c'est ainsi qu'on prononce. Ah, sinon, si je le prononce à la française, Agios Nikolaos, comme des agios bancaires finalement, mais
voilà,
c'est pas ça. Donc Ayios Nikolaos, et si je donne la version française, eh bien nous sommes à Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas, absolument.
Saint-Nicolas, alors en Meurthe-et-Moselle, il y a Saint-Nicolas-de-Port, mais on peut dire qu'on est aussi à Saint-Nicolas-de-Port parce qu'il y a un port.
Voilà.
Et on le trouve alors, dans les des représentations de Saint-Nicolas ?
Assez peu tout compte fait. C'est un peu comme en France, il y a beaucoup de Saint-Georges.
Saint-Georges, c'est mon nom de famille, c'est pour ça.
Oui, on en a beaucoup.
Non, mais de toute façon...
Comme dans toute cette partie-là de la Méditerranée, il est très, très populaire, Saint-Georges, terrassant le dragon.
Ouais. Enfin, ici, ils ne terrassent pas les dragons, mais quand ils passent devant une église, ils signent au moins 3-4 fois. Hein. Je suis gentil, oui, mais enfin, à un moment donné, même quand on prend l'avion... Ça nous est arrivé de voir des enfants qui se signent pendant 10 minutes.
Ainsi, vous avez bien voyagé sans risque.
Ah oui, 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 oui.
Notre ami grec nous disait que la religion, qui n'est pas séparée de l'État, hein, c'est le seul pays en Europe, je crois, que cette religion maintenait beaucoup les gens ensemble, beaucoup de respect, jamais de vol, de méchanceté, d'agressivité. On ne rencontre pas ça du tout ici en Grèce.
Si vous pouvez laisser vos clés et votre casque sur le scooter hein, ou la voiture ouverte, il n'y a pas de problème. Hein. Même la nuit. Hein. Les seuls voleurs, c'est les touristes. Hein. C'est nous, on va dire. Et ici, ils n'ont pas intérêt à le faire parce que la police est de la police, mais je pense que quand même, ils font bien comprendre qu'il ne faut pas recommencer une deuxième fois.
Beaucoup de probité, beaucoup d'honnêteté. Vous perdez votre portefeuille, on vous le rend, ce qui m'est arrivé au marché. Ils sont vraiment extraordinaires.
C'est un peu comme au Japon, alors.
Effectivement.
Ça arrive à tout le monde de laisser son sac, homme ou femme, au restaurant, l'oublier. Vous revenez, il n'y a pas besoin de courir, hein. Pas s'affoler. Il est là, il l'a rangé.
Contrairement au Japon, la vie est beaucoup plus relaxe. Hein. On est très très bohème ici.
Φεγγάρι που φορείς πολλά στο βραδινό σεριάνι. Πες μου αν θες πιο τυχερό στην καμαρά τσιβάνι. Πες μου αν θες πιο τυχερό στην καμαρά τσιβάνι.
On a évoqué la Covid. En revanche, là, quand je viens vous rendre visite, on sort d'une période d'incendie très, très violent, mais peut-être pas en Crète. Hein.
Non, Crète, il n'y a pas eu. C'est plutôt les îles près du continent.
Et le continent.
Le continent lui-même, oui, bien sûr.
Ça, c'est la sécheresse. C'est ce qui est arrivé à tous les pays méditerranéens, trop sec. Oui, c'est vrai.
C'est toujours pareil. Alors, par contre, ici, c'est même étonnant que ça ne soit pas encore arrivé. Mais on sait très bien que les incendies commencent avec...
Un mégot, etc. Voilà.
Et le mégot, quand vous voyez le gars qui est en train de prendre son scooter et puis qui fume avec son scooter, vous n'allez pas me dire qu'il va le mettre dans un cendrier. Donc, il le jette.
Alors, c'est peut-être le moment, Blanche et Jean-Loup, de nous raconter. Mais comment avez-vous échoué ici à Ayios Nikolaos ?
On a fait comme tous les autres Français, on est d'abord venus en vacances et on est tombés amoureux. Nous étions à Erzonisos avec des amis, on est venu faire un petit tour à Ayios et c'était vraiment adorable. Vraiment, on pouvait dire, c'était le Saint-Tropez. Bien sûr, maintenant, ça a pris un peu d'expansion, mais il y a quand même cette jolie tranquillité, ce décor, ces plages de sable fin qui sont parmi les plus réputées. Et puis on a dit pourquoi pas, au lieu de tomber dans le panneau de l'Espagne ou du Portugal. On avait envie de changer un petit peu plus.
Mais vous aviez envie de changer d'air. Et en France, où viviez-vous ? Alors, Blanche, vous êtes du Nord, donc Jean-Louis ?
Saint-Malo, moi.
Ah, Saint-Malo.
Habitant à Bordeaux, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en salle des ventes.
Bordeaux, c'est une super ville, mais que vous aviez envie de quitter ?
Non, le métier nous a quittés. Les jeunes n'achètent plus d'antiquités.
Même si le métier vous a quitté, vous n'étiez pas...
obligé de quitter la ville.
Non, obligé, on est allé jusqu'à quand même
67 ans. Hein.
Il faut savoir qu'on avait acheté le petit appartement avant pour les vacances, depuis un an ou deux seulement. Et on n'avait pas beaucoup le temps d'y venir en vacances avec le métier que nous faisions. Donc on s'est dit pourquoi ne pas en profiter plus. Ouais. Et on était très bien ici, on n'a jamais regretté notre choix.
Ce qui peut manquer, bien sûr, sont les amis français, la famille.
Le théâtre.
Alors, ceux qui sont restés là-bas.
Oui, oui. Et puis aussi le cinéma. On a quand même le théâtre, l'opéra une fois par mois, tant que ce n'était pas le Covid.
Et un opéra projeté ou le Met, les représentations du Met.
Voilà. Oui, voilà, c'est
et puis la famille, les amis.
Oui, oui.
Mais on s'est fait des amis ici parce qu'on est des gens... Oui, oui.
Quand c'est une année normale, vous rentrez combien de fois par an en France?
Toujours en décembre et janvier, 2 mois complets. Une seule fois, mais voilà. 2 mois complets.
Quand il fait normalement, alors pour les fêtes de Noël, bien sûr,
voilà.
et puis pour un mois bien froid en janvier.
Bien voilà. Frais, voilà.
Alors qu'ici, il fait, je suppose, plutôt doux.
Oui, mais on l'a passé, c'est la première fois qu'on passait l'hiver ici. Bon, mais on s'emmerde. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et ils sont tous en famille.
Suivez le guide, vous invite à prendre la route de la Crète. Un tour de l'île en bien moins de 80 jours. Nous sommes sur la côte est à Agios Nikolaos avec Blanche et Jean-Louis Poirier.
Ξεναγηθείτε στον Άγιο Νικόλαο.
Ο MGR My Greek Radio είναι.
Suivez le guide Agios Nikolaos.
Je suppose que vous êtes en forme puisque vous vivez ici toute l'année, donc vous bénéficiez du régime crétois.
Oui, tout à fait. Mais pas les crétois. Hein. Parce qu'ils sont de plus en plus gros. Hein.
Ah.
Oh là là, les enfants, vous les voyez, ça, les bourrelets sont là, mais ils ont la glace dans la main.
Ah oui, mais c'est la junk food.
Ah oui, oui,
c'est
oui,
pas
oui.
Le régime crétois.
Non, non pas du tout, du tout.
Bon, et Agios Nikolaos, c'est la petite ville, donc vous parliez du Saint-Tropez crétois, c'est la ville de vie nocturne alors ici.
Oui, il y en a
en
une
été,
partie.
Beaucoup
oui.
En été, en mi-saison aussi. Ouais. Les Grecs sont souvent au café, au restaurant. C'est une façon de se retrouver, d'échanger.
Et pour vous, il y a le moment de l'ouzo qui est sacré ou pas?
Mon docteur m'a dit de boire beaucoup d'eau, mais je mets de l'ouzo dedans.
Pour la parfumer un peu.
Pour la parfumer un peu, voilà.
Ah, ce petit guanisé quand même. Hein. Alors votre plage, l'endroit où vous baignez, bah, c'est là.
Mais là, vous voyez, encore là, il n'y a pas trop de monde à cette heure-là. C'est la plage.
Amundi. Mais un peu plus loin, vous aurez Patchamios, vous aurez Amos, vous aurez plus loin encore Almiros, Amundara.
Des belles plages.
Ouais.
Que de belles plages.
En face, c'est une plage d'hôtel, hein. Ouais. Un beau 5 étoiles, je pense.
Mais voyez, 5 étoiles, il n'y a pas besoin. Nous, on envoie quand on a du monde qui vient, on envoie ici, 35 euros face à la mer.
Victoria Hotel, Victoria effectivement. Hotel. Balcon, vue mer.
Mais c'est pas un 5 étoiles, mais c'est pas grave. Hein.
Et alors, particularité ici à Agios Nikolaos, il y a un petit lac qui s'appelle alors, le lac Voulismani.
Voulismani, c'est cela. C'est un lac dont on raconte une légende. On dit que dans les années 50 à peu près, ou avant la guerre, je ne sais plus exactement, après la guerre, il y a eu une grande éruption à Santorin, qui est une île qui est quand même à quelques milles.
Très touristique aussi, hein, dans les Cyclades.
Les anciens disaient que les poissons sautaient hors de l'eau car l'eau était brûlante. Est-ce que nous serions reliés, ce joli petit lac, vers Santorin? Nous ne le savons pas, nous le supposons.
Puisqu'il y a des failles.
Connexion sous-marine.
Oh bah oui.
Connexion sous-marine, oui, 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 oui. Et en son milieu, il est assez profond. Nous avons un ami qui fait de la plongée, qui essaye d'aller en son milieu, mais ils ne vont pas jusqu'au fond. Y aurait-il un tourbillon, un tunnel?
Ah, oui, alors la profondeur, je l'ai noté, c'est pas... Alors bon, il fait que 137 mètres de diamètre, ce qui est peu, mais avec une profondeur de 64 mètres et un lac dans lequel se serait baignée la déesse Athéna. Paraît-il. Je ne sais pas si on voit sauter les poissons, mais il y a paraît-il des remous. Alors après, il y a des terrasses tout autour, ça dépend de ce qu'on a consommé en terrasse.
Tout à fait.
Et après, on peut voir des choses.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite chapelle qui a été faite pour le film Zorba.
Aussi.
Ah oui,
oui,
voilà. La petite chapelle blanche, toute petite, elle est dans la falaise. En vérité, elle est peu profonde, elle doit faire 1,50 m à l'intérieur. C'est une façade, c'est un trompe-l'œil.
Zorba qui s'est tourné ici en Crète, en partie en Crète.
Beaucoup de régions.
C'est ça. Bon, mais sachant que l'auteur Nikos
Kazantzakis
est crétois.
Oui, absolument.
Du coup, l'aéroport Héraklion porte son nom. Théodorakis, la famille aussi est crétoise. Donc c'est totalement légitime par rapport au compositeur et à l'auteur.
Tout à fait.
Et Anthony Quinn n'était pas crétois.
Non. Non. Loin de là.
Tu restes un peu plus loin, il y a une petite supérette, c'est Zorba aussi. Ici, il y a beaucoup de Zorba. Hein.
Beaucoup de Zorba.
Par contre, nous, quelquefois, on va dans la montagne et il y a un petit village où il y a un bon restaurant.
Adam s'appelle voilà. Onassis.
Donc souvent, on dit on va voir Onassis chez Maria, mais enfin, en vérité, Onassis. C'est la famille Onassis. C'est très agréable, ce petit coin, quand il n'y a plus le tourisme. Voilà.
Mais sur cette promenade là en face de chez vous, imaginons la promenade des Anglais à Nice, la Croisette à Cannes en plein mois d'août. Bon, normalement, il y a beaucoup de monde, mais là, ici, on est quand même tout seul.
Parce que c'est la journée. Allez voir à 18-19 heures, c'est le lieu de rencontre de tous les...
Et quand il y a eu le Covid, ici, tout le monde se disait bonjour, parce qu'il ne pouvait pas se voir ailleurs. Donc, ils se voyaient sur la Croisette.
C'est le
remblai
des Sables d'Olonne.
Bon, voilà, les Sables d'Olonne, le remblai, ça s'appelle pareil.
Quand on séjourne à Agios Nikolaos et qu'on a envie d'en sortir un peu, qu'est-ce qu'on doit visiter ? On doit aller où ?
Alors, il y a les deux bords de mer à l'est et à l'ouest. Il y a le sud aussi qui donne sur la mer de Libye. C'est Hierapetra qui est très industriel.
Mais là, on est déjà assez loin, là.
15
kilomètres. Ah
oui, parce qu'on est dans la partie la moins large.
Ah, on est dans la partie la plus étroite.
Voilà. Et ensuite, par contre, à Hierapetra, à l'est comme à l'ouest, de très belles plages aussi.
Sauvage.
Plus rocheuses,
sauvage.
Un peu plus style Bretagne, vous voyez, si on
mais
peut
mais avec une température d'eau qui n'a pas la température de l'eau en Bretagne.
Non, pas du tout. Et ensuite, c'est la montagne, de très très jolis paysages, des changements de paysages aussi, un peu crétois, mais par moments, on se croirait un peu en Alsace, parce que nous avons des pins et des sapins. Pas des sapins, mais un peu
des
pins,
conifères.
Ouais. Et par moments,
on coupe les sapins de Noël.
Oui, pas tout à fait, mais on aurait l'impression effectivement d'être dans un pays à climat plus tempéré, on va dire. Et il fait surtout beaucoup plus frais. C'est pour ça que nous y allons. Attention, sur la route, vous pouvez rencontrer un troupeau de petites chèvres. Si vous avez des pommes, vous leur en donnez, elles adorent.
Et cette église, donc, qui est près d'ici à 10 km, c'est l'église de Panagia...
Panagia Kera.
Qui paraît-il l'une des plus belles de Crète.
Parce qu'elle a parmi les plus anciennes fresques du XIIIe siècle et qui sont vraiment très, très jolies. Un peu abîmées, bien sûr, ce sont des portions, mais très jolies.
Et puis, il y a une île très touristique qui s'appelle l'île des Lépreux.
L'île des Lépreux, c'est l'île de Spinalonga.
Spinalonga,
où ils étaient encore les lépreux au début du siècle. Alors on les avait mis là-bas, il y avait d'abord seulement les lépreux de la région, et après sont arrivés des lépreux d'Athènes, d'Héraklion, de partout, et ce qui a relevé un petit peu la société des lépreux. Mais ils s'en sortaient assez bien malgré tout, car l'État les aidait beaucoup, de peur qu'ils ne s'en échappent.
Ils leur donnaient de l'argent quand même,
voilà. Ils avaient
comme un salaire.
Un peu d'argent, ils avaient des terrains pour cultiver. C'était vraiment une vie peut-être un peu cloîtrée, qui manquait de liberté, mais qui était assez douce pour eux malgré tout.
Mais ils étaient contenus dans cette île finalement.
Absolument.
Ils ne pouvaient pas sortir,
absolument.
Ça, c'est sûr.
Stop my way.
Et on est, je suppose aussi, bien sûr, régime crétois huile d'olive. On est au pays des oliviers, mais je suppose que des oliviers, il y en a partout, non, en Crète?
Partout, partout, partout.
Et ici, encore oui, plus oui, que oui. sur le
Et
côté,
encore plus.
Plus,
plus
oui,
que
oui,
sur
oui,
le
plus.
Côté de Rania.
Rania ou Timno, oui.
C'est l'ouest, hein.
Oui, oui
l'ouest,
oui.
Il y a plus d'arbres fruitiers ou autres. La vigne, là-bas, un peu plus aussi.
Et parfois, vous roulez, vous voyez un grand bâtiment avec des carrés dessinés par terre. C'est là que les propriétaires des oliviers amènent leurs grands sacs d'olives en janvier, je crois, décembre-janvier. Ils mettent chacun sur un parking, si on peut dire.
Ouais.
Et
parce que la récolte, c'est quand
travaille. Souvent, c'est fin novembre, décembre, ça dépend. Des fois, c'est un peu plus tôt.
L'année dernière,
quand
il n'y a pas eu d'eau.
Et
trop sec, il a fallu
sec,
attendre.
Ils font plus tôt, plus tard. Et le pressoir tourne à plein régime pendant deux mois au moins. Au moins
ici,
deux
c'est le raki aussi.
Et il y en a un petit peu partout. Ouais.
Quand je vais chez mon coiffeur, quand c'est la période du raki, il m'offre une bouteille de raki.
Le raki louzo.
Non,
c'est différent.
C'est un alcool blanc, 20 degrés
un peu plus.
Et que l'on peut utiliser en mangeant pendant tout le repas, mais souvent c'est servi à la fin du repas.
Un peu comme un calvin.
Voilà.
De l'île, enfin il y a une partie de l'est de l'île, donc de Crète, qui est militaire. Je peux pas aller
tout au bout? Non, interdit.
Tout au bout, vraiment la petite pointe tout au bout.
Parce que là, c'est fermé, elle est face à la Turquie.
Loin quand même.
Loin.
Mais
on
c'est
voit
quand
pas les côtes.
Même.
Non, on voit
non,
pas les côtes.
Mais c'est quand même un point.
En avion, ça doit faire 20 minutes, comme ça, même
et
pas.
Et nous l'avons aussi au centre de l'île. Nous avons aussi buté sur un aérodrome,
militaire.
Aéroport militaire.
Et donc à l'est, ce sont des troupes grecques. Cette partie militaire.
Européen.
Mais y a-t-il oui. des voilà y a-t-il oui, oui. des troupes alors
oui, oui.
européennes
oui.
ou américaines?
Américaines non. C'est surtout l'Europe, la France, l'Allemagne, quelques pays du Nord aussi qui envoient des petits contingents. Non. Quand il y avait la Libye, les problèmes de Libye, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de monde.
Bon, mais c'est votre paradis ici clairement.
Oui, malgré quelques petits manques. C'est
comme on dit, il y a des paradis partout sur la terre. Il faut bien s'arrêter à un paradis.
Bon, bah et puis là. La vie est douce. Ça nous a fait penser, quand on est arrivé un petit peu à la France, des années 50, vous voyez, quand les gens partaient en vacances, s'arrêtaient sur le bord de la route, c'était plus relax, ouais. Et c'est vrai. Oui, oui.
Ça,
tous nos voisins,
relax, oui,
même
ça.
Grecs, nous disent bonjour. Si on demande un service, ils le rendent volontiers. Il n'y a pas d'individualisme ici en Grèce. C'est beaucoup amis, famille. Ça compte énormément ici.
Par contre, tous les jours, on regarde la télévision française. On peut avoir à peu près 5 ou 6 fois la météo. Française. Quand j'ouvre le matin les volets, j'ai ça.
Donc toujours quasiment un ciel bleu
bloqué,
tous les jours.
C'est bloqué.
La météo à Ios Nikolaos est bloquée sur le ciel bleu.
Voilà.
Seulement en hiver, un peu de pluie, mais c'est bien pour recharger les nappes phréatiques. C'est bien.
Et parlez-vous grec?
Pas du tout. Quelques mots pour être bien poli, bien aimable.
Le matin, je dis quoi? Calimera.
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 En sur le.
Ah, Calimera.
Calispera.
Et dès que vous le quittez, même à 5 heures de l'après-midi, vous dites Kalinikta.
Kalinikta.
Nikta, Niktalope, la nuit.
Efcharisto, Efcharisto.
Efcharisto.
Merci.
Merci. Et Parakalo, s'il vous plaît.
Ah, s'il vous plaît.
Parce qu'ici, vous donnez votre billet de banque, vous dites Parakalo. Elle vous rend la monnaie, elle vous dit Parakalo. Et vous dites Efcharisto.
Bon, et en dehors de Efcharisto et Kalimera, Kalispera, Kalinikta, qu'est-ce que...
Siga, siga. Ça veut dire doucement, doucement. Donc c'est bien un truc de grec.
Efcharisto, Blanche et Jean-Louis. Merci.
Pas le temps.
Les lépreux m'attendent.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire, des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a
voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
C'est parti pour l'île des lépreux, le petit bateau avec une vingtaine de passagers a quitté Placa. Et la croisière, la traversée va durer au moins 5 minutes. Quelques centaines de mètres pour arriver sur l'île des Lépreux, dont on découvre déjà les remparts, les fortifications, mais une île des Lépreux sans lépreux. Mine de rien, on compte quand même une demi-douzaine de bateaux dans ce petit port. L'île des Lépreux, Spinalonga, une île forteresse dont subsistent les murs qui entourent toute une moitié, pratiquement une moitié de cette île. Et sur des ruines antiques, les Vénitiens ont construit à la fin du XVIe siècle une forteresse, vraiment, une forteresse destinée à protéger le port d'Elunda, qui est le port en face, après Agios Nikolaos, ce port d'Elunda. Alors que là, moi j'ai pris le bateau à Placa. C'est la meilleure solution d'ailleurs. Je suis tout seul, je vais peut-être retirer mon masque. Voilà. Ouf. Bon, en principe, il faut porter le masque sur cette île des Lépreux, mais très honnêtement, très peu de touristes français et autres gardent leur masque lors de la visite. Et cette forteresse lui fut, paraît-il, l'une des rares forteresses de cette île de Crète à ne pas tomber aux mains des Turcs au XVIIe siècle. Donc cette forteresse était une propriété vénitienne et un refuge pour les chrétiens qui fuyaient les Turcs. Et donc finalement, en 1715, c'est la reddition de Spinalonga, et cette fois qui passe aux mains des Turcs.
Ευχαριστώ. Merci. Τα ξαναλέμε στην Κρήτη. À bientôt en Crète.
C'est la fin de ce premier Suivez le Guide en Crète. Ευχαριστώ, Irène Mavroudi, Blanche et Jean-Louis Poirier. Suivez le Guide en Crète, préparé avec la complicité de Marie Tripodianos à Rétimno, Marie la Crétoise. Merci Amandine Courtois, hôtesse du vol Air France Paris-Héraclion, particulièrement courtoise. Réalisation Romane Feocchio. Le site internet crétoise.gr. Ευχαριστώ, à très bientôt en Crète.